France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité et votre journal, Marine Corbel. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Face à la dermatose qui gagne du terrain dans les troupeaux français et alors que la colère des agriculteurs gronde contre l'abattage des troupeaux, la ministre de l'Agriculture annonce ce matin la vaccination d'un million d'animaux dans les semaines à venir. Et puis, des personnes migrantes expulsées des États-Unis vers le Kosovo, c'est la situation qui découle d'un accord signé en juin dernier par le premier ministre kosovar. Les explication de notre correspondant dans les Balkans dans ce journal. Il dénonce une gestion de la maladie plus effrayante que la maladie elle-même. Les agriculteurs de la Confédération paysanne ont appelé à des blocages partout en France contre la politique d'abattage des troupeaux pour lutter contre la dermatose. Alors que plusieurs blocages sur la 64 au sud de Toulouse sont toujours en cours, que des actions le sont aussi, le gouvernement a réaffirmé sa politique et étendu les zones de vaccination obligatoires. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, était ce matin chez nos confrères d'ici Occitanie.
Nous avons fait une barrière sanitaire supplémentaire. Nous allons, dans les semaines qui viennent, vacciner près d'un million d'animaux et donc protéger les éleveurs. Et puis, je veux redire que l'État sera aux côtés des éleveurs qui ont été touchés. Leurs pertes seront indemnisées et leurs pertes d'exploitation également. Mais nous serons aussi aux côtés, nous sommes aussi aux côtés des éleveurs qui ne veulent pas l'être. Il s'agit de protéger le cheptel français.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui précise qu'elle n'ira pas sur les points de blocage de la région Occitanie, mais qu'elle suit les choses avec attention. Est-ce un tournant dans les négociations de paix en Ukraine qui patinent depuis des semaines? En tout cas, c'est confirmé. Volodymyr Zelensky rencontrera les émissaires américains à Berlin ce week-end. Une réunion qui se tient alors que Kiev, sous pression, cède sur le point de crispation majeur du plan de paix américain, les concessions territoriales dans l'est du pays sous occupation russe. Ukrainiens et Européens demandent des garanties de sécurité avant toute négociation. Le président français Emmanuel Macron devrait également participer à la réunion. Les pays des Balkans sont-ils en train de devenir une plaque tournante pour les expulsions d'immigrants clandestins? Après l'Italie de Meloni qui a ouvert à grands frais des centres de demandeurs d'asile en Albanie, c'est au tour des États-Unis de Donald Trump qui ont commencé à expulser des migrants au Kosovo. L'annonce a été faite jeudi soir par le Premier ministre Albin Kurti. Mais pourquoi le Kosovo accepte-t-il d'accueillir ceux dont les États-Unis ne veulent pas, selon les mots du chef du gouvernement? Les explications de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seyé.
C'est au détour d'une interview donnée à une chaîne de télévision locale que le Premier ministre l'a annoncé ce jeudi, sans rentrer dans les détails. Des premiers migrants expulsés des États-Unis se trouvent déjà au Kosovo. En juin dernier, ce pays pauvre des Balkans, grand comme l'île de France, avait accepté d'accueillir pour une durée d'un an une cinquantaine de personnes expulsées des États-Unis pour cause de séjour illégal, avec l'objectif de faciliter leur retour sécurisé vers leur pays d'origine. En difficulté sur la scène intérieure, le Premier ministre social-démocrate Albin Kurti présente cet accord comme un moyen de montrer la reconnaissance éternelle des Kosovars envers les États-Unis. Au Kosovo, les Américains sont largement perçus comme des libérateurs et considérés comme les principaux artisans de l'indépendance du pays proclamée en 2008. Alors que la Serbie voisine s'oppose toujours à la reconnaissance internationale de son ancienne province, les autorités kosovars cherchent à renforcer leur soutien diplomatique et économique dans le monde occidental. L'an dernier, Pristina a déjà ratifié un autre accord controversé avec Copenhague. Contre 200 millions d'euros et pour une période de 10 ans, le pays s'est engagé à accueillir dans ses prisons 300 détenus étrangers condamnés au Danemark avant leur expulsion vers leur pays d'origine.
Les explications de Louis Seyé pour France Culture. Les hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge se poursuivent. Le président américain Donald Trump affirmait pourtant hier avoir obtenu un accord entre les deux pays. Le cessez-le-feu n'aura duré que quelques heures. Le premier ministre thaïlandais a annoncé ce matin que son pays poursuivra ses opérations militaires contre son voisin cambodgien, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, selon lui, de menaces. La Thaïlande et le Cambodge se disputent des morceaux de territoire autour de plusieurs temples anciens. Les combats ont fait au moins 20 morts cette semaine, plus d'un demi millions de personnes ont évacué les régions frontalières depuis le début des affrontements. Et on termine ce journal en musique et en Suède. Le pays fête comme tous les ans la Sainte-Lucie en ce 13 décembre. Une fête qui marque avec l'Avent le début de la saison de Noël, au programme des processions mais aussi du chant. Une discipline qui occupe une place centrale dans l'un des pays qui compte le plus de chorales par habitant. Louis-Valentin Lopez a mené l'enquête à Stockholm pour essayer de comprendre ce phénomène.
Chaque année, c'est un rituel. Avec le chœur de chambre de Stockholm, Gunnar Carlsson sillonne la capitale
pour célébrer Sainte-Lucie.
Souvent, nous nous réveillons à 7h et nous allons chanter, que ce soit devant des bureaux, dans des cafés, lors d'événements, dans les entreprises. Nous chantons à chaque fois 7 ou 8 chansons.
Une musique vocale qui s'est enrichie au fil des décennies, les explications de Bengt Olem, qui dirige l'ensemble Sophia.
En Suède, chanter dans un chœur est une tradition depuis le milieu du 19e siècle. Mais il y a eu aussi un gros changement après la Seconde Guerre mondiale. Des compositeurs et des musiciens se sont regroupés pour développer de nouvelles musiques. Et un homme, Erik Eriksson, a créé son propre chœur, puis a pris la tête du chœur de la radio suédoise. Je pense que ça a eu une énorme influence sur les compositeurs de musique vocale et aussi sur le chant choral en Suède.
Il faut savoir que les chanteurs sont formés très tôt. Auguste, Alfred et Lucas font partie du chœur de garçons de Stockholm.
Je viens de commencer dans un lycée de musique et je fais beaucoup de chorale, 4 fois par semaine.
J'ai commencé depuis je sais pas combien d'années, peut-être 6 ou 7. C'est vraiment dans la culture.
Karen Tiberle-Land dirige le chœur de garçons depuis 17 ans.
Many of these boys will... Beaucoup de ces garçons continueront à chanter toute leur vie. Certains deviendront des chanteurs ou des musiciens professionnels.
Et environ 8% de Suédois chanteraient aujourd'hui dans une chorale.
L'enquête suédoise de Louis-Valentin Lopez sur ce pays de la chorale. Et puis on passe à la météo de ce samedi. Des nuages bas, des brouillards sur toute la moitié nord du pays. Des Charentes à l'Auvergne-Rhône-Alpes, les brouillards sont plus localisés. Sur le reste de la moitié sud et en Corse, le soleil s'impose largement. Les températures maximales vont de 7 à 13 degrés et de 12 à 16 du sud-ouest à la Méditerranée.